BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bonjour et bienvenue au club Média RH, le rendez-vous hebdomadaire de l'emploi, du management et de la réussite, la vôtre. Vous le savez, on est là pour vous aider à recruter votre futur employeur. Et quel employeur, de qui s'agit-il aujourd'hui? Vous vous posez la question, bien sûr. Ben, le numéro 1. On a choisi le numéro 1. Je veux parler, bien sûr, de L'Oréal. Alors, c'est une belle occasion. Bonjour, Hugo Bonchamp. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des affaires sociales de L'Oréal. L'occasion pour nous de faire le point sur vos recrutements en 2020. Et en particulier, je l'ai noté, un petit coup de projecteur sur les évolutions de certains métiers chez vous, celui d'assistante. D'ailleurs, on dit assistante. On devrait dire assistant. Enfin, on va en parler dans quelques minutes. L'Oréal, quelle belle entreprise. Alors, en première partie du jour, nous sommes ravis de recevoir Alexandre Zermati, qui lui est auteur, podcasteur et manager d'équipe. Alors, manager, bonjour.
Bonjour.
Manager chez Orange, je crois, c'est bien ça au départ?
Exactement.
Oui. Voilà, et vous avez eu l'idée, la bonne idée, d'écrire un livre, alors c'est chez Erol, Self-Manager, 5 jours, c'est ça?
C'est exactement ça, Self-Manager, voilà. Donc 5 jours pour mieux organiser son travail et enfin...
Et enfin, c'est le même enfin
de sa vie perso, enfin.
5 conseils, vous allez nous les donner bien sûr dans quelques minutes.
Exactement.
En seconde partie, vous le savez, on terminera toujours emploi, on est là pour ça, on est là pour parler d'emploi et de recrutement. Avec la start-up qui cartonne et qui recrute, tout à l'heure, en fin d'émission, il s'agit de Benoît Liénard, qui lui est cofondateur de Pledge. Alors Pledge, c'est 50% de croissance dans ces 6 derniers mois, 40 clients grand compte, Pledge, qui offre des solutions omnicanal, il nous expliquera ce que ça signifie précisément, de facilité de paiement de facilité de paiement tout court, voilà. Donc toutes les questions seront à poser en fin d'émission. Enfin, avant lui, en seconde partie, nous aurons le plaisir de retrouver Philippe Morette. Philippe Morette, qui est directeur de People First. Alors, lui va nous parler de ce qui nous vient des pays anglo-saxons. C'est une tendance forte qui existe aujourd'hui dans les entreprises françaises. Comment retrouver autour d'une table à la fois des salariés, des freelances, des indépendants, des managers de transition, ça se développe et c'est une vraie tendance lourde. Voilà pour le sommaire. On passe tout de suite avec l'invité du jour, L'Oréal. Quelle belle entreprise et ses recrutements. C'est parti, l'entreprise qui recrute.
BFM Business, le club Média RH, l'invité témoin.
Rebonjour donc Hugo.
Bonjour Alexandre.
Ravi de faire votre connaissance. Alors vous êtes le directeur heureux des affaires sociales heureuses chez L'Oréal. Quelle belle entreprise, voilà, j'ai à peu près résumé.
Oui, leader mondial de la beauté, effectivement vous avez résumé. C'est 14 000 emplois en France.
Ah oui.
Et alors je suis venu pour parler de plusieurs sujets, et notamment du fait que ces 14 000 emplois, ce n'est pas des emplois parisiens. C'est 14 000 emplois sur 25 implantations géographiques en France. Et donc un premier enjeu, un premier sujet qu'on peut aborder ensemble, c'est cette implantation territoriale et le fait que nous cherchons des candidats de toutes origines, de tous milieux, de toutes zones géographiques. C'est un premier sujet. Et puis effectivement,
le deuxième, c'est l'évolution, l'évolution des emplois. Avant qu'on démarre, on va peut-être délivrer un petit scoop, hein. On peut le dire, on n'a jamais parlé dans cette émission, et on n'en parlera pas une autre fois, du coronavirus, les réactions sur l'emploi. La rédaction en parle, et vous êtes bien informés sur BFM Business, bravo de nous écouter et de nous suivre. Mais là, petit scoop, je suis assez fier, en entrant dans le studio, vous m'avez dit, nous, chez L'Oréal, on a créé notre propre produit. Allez-y, je vous laisse.
Oui, on parlait de gel hydroalcoolique et de la pénurie dans certaines pharmacies, etc. Et si vous voulez, L'Oréal, de par son activité, a réussi quand même la prouesse en 3 jours.
En 3 jours
de produire suffisamment de gel hydroalcoolique pour les distribuer cette semaine à l'ensemble des collaborateurs. Je parlais de 14 000 personnes un instant, en France. Donc, vous voyez, c'est une grande fierté pour nous, hein, de pouvoir...
Fabriquer en interne
dans notre usine de Vichy,
hein,
de Cosmétiques Actifs Production. On parlait de province, vous voyez, on y est. Et distribuer à l'ensemble des collaborateurs.
Bon, et vous avez amené une petite bouteille pour moi, non?
On réglera ça après l'émission.
C'est pas encore destiné à tout le monde, c'est pour vos collaborateurs.
En tout cas, pas destiné à la vente.
Vous y tenez, oui, pas destiné à la vente, vous y tenez à vos collaborateurs. Alors justement, on va y arriver. Acteurs d'emploi, d'abord, si vous voulez, on commence par ça, dans les territoires. On va peut-être donner la carte, comment on appelle ça, la carte d'identité, comme on le fait dans chaque émission, la carte d'identité de l'entreprise. L'Oréal, c'est combien de personnes dans le monde? Vous avez les chiffres en tête?
89 000.
89 000 dans le monde. Le chiffre d'affaires?
Près de 30 milliards.
Très bien. Vous êtes numéro 1 de, de la beauté.
Oui.
Alors la beauté, ça résume, ça emploie, ça englobe, pardon, beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, date de création 1909, 88 000 collaborateurs, près de 30 milliards.
En tout cas, pure player de la beauté, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a
d'autres
entreprises qui font de la beauté parmi d'autres activités. L'Oréal est une entreprise qui est un pure player de la beauté, qui ne fait que ce sujet. Et donc, à ce titre, on est leader mondial.
Alors, les chiffres, on les donnera sur les recrutements. On peut dire que globalement, c'est plus de 1000 CDI. Ça, c'est pour la France ?
C'est plus de 1000 CDI pour la France.
Des postes à pourvoir en CDI.
Qui ont été pourvus en 2019.
Oui.
Et donc, compte tenu de la croissance du groupe, on s'inscrit dans une dynamique qui est stable.
Ouais,
donc,
ouais.
C'est effectivement 1000 CDI en France.
Alors, sur l'un des 25 sites en France, c'est une caractéristique de L'Oréal, c'est que vous n'êtes pas que Paris ou région parisienne, vous êtes déployé, comme on dit, et même en région parisienne, vous êtes à plusieurs endroits, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller faire des visites et de découvrir, mais vous êtes sur 25 sites à travers la France. Alors, vous dites que L'Oréal, c'est un des grands acteurs de l'emploi dans les territoires. Expliquez-nous, précisément. On peut revenir sur ces fameux 1000 CDI, c'est le point de départ.
Bien sûr, en fait, vous avez un certain nombre de sites qui sont en Île-de-France, notamment dans le 92, dans le 93, oui. Aulnay-sous-Bois, Levallois-Perret, Clichy, où le siège social est implanté.
Donc des bassins d'emploi.
Donc des bassins d'emploi.
En région parisienne.
En région parisienne, bien sûr. Et puis également en province. On a beaucoup de sites industriels et logistiques dans les Hauts-de-France. J'ai moi-même été DRH d'un site à Saint-Quentin dans l'Aisne.
Oui.
Et c'est une grande fierté sur ces territoires, avec des niveaux de chômage parfois importants, de continuer à générer de l'emploi. Et puis dans d'autres villes, La Roche-Posay, Vichy, Rambouillet, etc. Donc c'est vraiment une implantation qui est sur l'ensemble du territoire, avec à chaque fois une volonté des équipes L'Oréal sur ces sites de créer des partenariats et de travailler avec les acteurs locaux.
Oui, parce que l'idée, vous parlez de ces territoires et de ces, là où vous êtes implantés à travers la France, l'idée c'est de proposer des emplois de proximité. Il n'y a pas que des postes cadres ou de grands cadres, il y en a beaucoup chez vous, des hommes et des femmes de qualité d'ailleurs, à tous les niveaux de l'entreprise. Mais il y a aussi des postes que vous pourvoyez dans le cadre de vos activités localement.
Absolument, et c'est ça aussi l'inclusion, la diversité. Si vous voulez, le postulat de départ, c'est pour s'adresser à tous les consommateurs, il faut que les équipes L'Oréal qui développent nos produits, qui les créent, qui les produisent dans nos usines, etc., soient représentatives de ces consommateurs. Donc si on n'a que des personnes qui viennent de grandes écoles XY, ça n'est pas représentatif.
On va redonner les chiffres. Alors, 1000 CDI, on le voit à l'écran, dans l'un des 25 sites du groupe en France. On a oublié de parler, j'ai oublié de préciser, 800 alternants, 200 stages et plus de...
1200 stages.
1200 stages, pardon. Oui, exact. Et 600 jobs d'été. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme job d'été chez L'Oréal ? C'est pas le Club Med, L'Oréal ?
Non, c'est pas.
Ni Disney.
Ça veut dire des jobs qui consistent à remplacer partiellement des personnes qui sont en congé d'été.
D'accord.
Tout simplement.
Oui.
Beaucoup d'enfants de collaborateurs historiquement chez L'Oréal, mais aujourd'hui aussi beaucoup de jeunes issus de quartiers prioritaires des politiques de la ville et de jeunes issus de zones de revitalisation rurale.
Alors,
c'est tout le sujet qui est lié au programme PACTE qu'a lancé le gouvernement en 2018 et qui a donné lieu à pas mal d'engagements d'entreprises de grands acteurs comme de plus petits acteurs en France. Et le sujet chez L'Oréal a été adressé tant sur les stages que sur les stages de découverte de troisième, que sur les alternances et que sur les jobs d'été.
Hugo, quels sont, d'une manière générale, les emplois proposés chez L'Oréal en 2020 ? Voilà, la question est large. Bien J'imagine sûr. Que vous allez pouvoir donner des éclairages.
Bon, dans une boîte de la taille de l'entreprise de L'Oréal, naturellement, il y a une diversité de métiers qui est très importante. Les grandes tendances qui touchent le marché aujourd'hui touchent L'Oréal également. Quand on parle de la transformation digitale...
Mais prenons des exemples, oui.
Évidemment, ça veut dire des métiers des systèmes d'information, de l'IT, qui sont en nombre important, plus qu'auparavant. Et ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est aussi, plutôt que de se concentrer uniquement sur ces métiers qui font l'actualité, de se dire, sur ce plateau, les métiers plus historiques continuent à recruter. C'est-à-dire qu'on entend régulièrement...
C'est quoi les métiers historiques ?
Tel et tel métier vont disparaître. Moi, je me refuse d'entendre ça. Ces métiers vont se transformer et ils ne vont pas vous parler de l'assistanat, qui est un bon exemple. L'assistanat de direction se transforme, mais ne disparaît pas. Donc c'est sur l'ensemble des métiers que nous avons des postes à pourvoir. Ils sont tous en ligne. Ils sont tous en ligne.
Oui, bien sûr, on ne va pas les énumérer ici.
On va les énumérer.
C'est pas l'intérêt, puisque Internet existe. Ils sont tous sur votre site. Mais
c'est pas parce qu'on s'appelle. Excusez-moi. Allez. C'est pas parce qu'on s'appelle L'Oréal que. Alors évidemment, plus d'un million de CV par an nous arrivent.
Un million de CV.
Oui. Mais c'est pas parce qu'on s'appelle L'Oréal que c'est facile de recruter le bon ingénieur de production dans une usine.
Vous voyez, je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est une marque mondialement connu, qui a une notoriété énorme, mais qui donne envie de postuler, j'imagine. Vous dites 1 million, c'est énorme. Alors vous avez des postes aussi dans l'industrie, on l'oublie. L'Oréal, c'est aussi.
On oublie souvent l'industrie,
ils sont dans la recherche. Vichy, voilà, exactement.
Et en réalité, l'industrie, c'est 22 000 collaborateurs dans le monde.
Ah oui.
La recherche, c'est également plusieurs milliers de collaborateurs dans le monde. Et on a tendance à oublier, effectivement, c'est une problématique. On pense souvent au marketing, à la communication. L'Oréal, c'est loin d'être que ces sujets-là.
Et puis, ou les métiers liés aux cosmétiques, etc.
Voilà, absolument. Voilà, oui. Et puis, l'activité cosmétique, naturellement, fait qu'il y a un autre enjeu de diversité qui est celui de l'attraction des hommes. Hein, puisqu'on parle d'une entreprise évidemment avec une proportion de femmes plus importante, on est 60% de femmes sur ces 14 000 personnes.
Comment vous dites on est
Nous sommes
notre entreprise.
60% de femmes, donc ça veut dire que sur l'ensemble des domaines professionnels, les CV qui nous arrivent sont majoritairement des CV de candidates, et donc il y a un enjeu naturellement parallèlement à promouvoir les carrières des femmes dans l'entreprise, d'attirer des candidats hommes.
Alors, deux mots juste, et puis on passera tout à l'heure justement à l'évolution des métiers. D'abord, sur vos engagements, vous êtes engagé dans PACTE, P-A-Q-T-E. PACTE, c'est juillet 2018, c'est ça?
Oui.
Expliquez-nous.
C'est PACTE avec les quartiers pour toutes les entreprises. Donc ça, c'est le président de la République qui convie à l'Élysée les dirigeants des grandes entreprises françaises pour leur demander
de proposer des stages.
En fait, c'est un peu le sujet plan banlieue précédemment. Pour leur demander d'être acteurs, finalement, de cette transformation. Et donc, de proposer concrètement de dédier une partie des offres d'emploi, qu'ils soient
sur les quartiers prioritaires
de la politique de la ville. Et alors, ce qu'a souhaité faire L'Oréal, c'est naturellement, compte tenu de ces implantations, de ne pas parler uniquement des QPV, mais également des zones de revitalisation rurale qui sont à nos yeux tout aussi importantes.
Voilà, alors je dis que
les personnes éloignées de l'emploi.
Pour qu'on aille jusqu'au bout, comme le veut la tradition dans cette émission, on parle de recrutement, bien sûr. On a envie de savoir ce qu'une entreprise comme L'Oréal, et on est dans la marque employeur totale, ce que vous avez à offrir aux candidats, quel qu'il soit. Est-ce qu'il y a une espèce de package commun? Est-ce qu'on pourrait donner quelques grandes lignes, justement, de ce que L'Oréal peut avoir à offrir, au-delà des salaires, des bénéfices et de la protection sociale? Qu'est-ce que vous avez à offrir?
Et c'est intéressant que vous parliez de package commun, puisqu'en réalité, l'ensemble des sociétés de L'Oréal en France, qui naturellement c'est plusieurs sociétés juridiques, ont une politique sociale qui est harmonisée. Donc évidemment, c'est la rémunération, mais évidemment, les candidats aujourd'hui cherchent davantage de choses que l'aspect pécunier. C'est un équilibre de vie. Alexandre en parlera avec son livre tout à l'heure. C'est un équilibre de vie qui est extrêmement important pour les nouvelles générations. C'est donner du sens à ce qu'ils font. C'est finalement arriver à voir quel impact on a sur une entreprise telle que L'Oréal dans son action au quotidien. C'est avoir une capacité d'entreprendre dans l'entreprise. On va parler de l'assistanat, si vous voulez. Dans le cœur de mon job, j'aurais pu le tenir sans entreprendre sur la filière assistanat. Et en réalité, si on a envie de prendre des sujets, on peut les prendre. Et ça, c'est quelque chose de très important pour les nouvelles générations. C'est de la flexibilité dans le télétravail. C'est, l'année dernière, le congé paternité porté à 6 semaines. Si vous voulez, c'est un ensemble.
C'est pas mal. De propositions
qui sont construites avec nos organisations syndicales. Certainement pas que la direction.
C'est la réussite économique associée à la, comment dire, à la performance sociale, on peut dire ça?
C'est la conviction qu'il n'y aura pas de performance économique sans cette responsabilité sociale.
Et vice-versa. Voilà. Alors, on va parler des assistantes. On peut le faire tout de suite, d'ailleurs, parce que c'était le sujet, justement, des assistantes. Vous disiez 60% de la population de l'entreprise de L'Oréal sont des femmes. Donc là, on ne pose même plus la question sur la parité. Vous l'avez largement dépassée. Et c'est logique. Alors, les métiers évoluent dans toutes les entreprises, dans toute la société. Et je voulais qu'on fasse un focus, parce que c'est un sujet que vous avez étudié de près, c'est l'évolution du métier d'assistante. Vous en avez 900. Vous avez 900 assistantes en France, c'est bien ça, d'après les chiffres. Et 130 sont parties à la retraite ces 3 dernières années. C'est un métier... Vous dites, vous, Hugo, que c'est à la fois un métier en pleine transformation et un métier d'avenir.
Oui.
C'est pas dichotomique, tout ça.
Non, pas du tout. Simplement, il faut réinventer le contenu de ce métier.
Oui.
C'est-à-dire que...
D'abord, c'est quoi assistante, d'abord?
Bon, évidemment...
Une entreprise comme L'Oréal.
Parmi 900...
C'est varié, j'imagine. Bien sûr. On ne peut pas focaliser, mais...
Bien sûr. Parmi 900 personnes qui sont dans ce domaine de l'assistanat, il y a des personnes qui sont plus spécialisées techniquement sur l'assistanat de recherche, sur des assistanats de achat, finance, RH, etc. Et puis, il y a à peu près 350 personnes qui font exclusivement de l'assistanat de direction. tel que vous connaissiez,
traditionnel,
secrétariat, etc. Sur ce métier-là, qui est un très bon exemple de ce que peuvent vivre d'autres filières, on est passé de sténodactylo à l'assistante qu'on connaît aujourd'hui, finalement sans trop d'accompagnement. Voyez, et l'idée, c'est dans un monde encore plus instable aujourd'hui et qui se transforme encore plus vite, de anticiper ces changements et de faire en sorte que les collaborateurs, c'est ce que nous organisons avec les assistantes aujourd'hui, soient acteurs et leur mot à dire sur ce qu'ils imaginent être leur métier demain.
On est en train, volontairement, vous l'avez entendu, j'ai appuyé sur le mot assistante. Ça veut dire quoi? C'est que vous refusez les assistants chez L'Oréal? Vous refusez qu'un homme devienne assistant?
Et c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui, puisque on parle d'emploi et de recrutement.
Est-ce qu'on peut masculiniser ce type de poste?
En fait, on est face à un problème aussi de formation initiale. C'est-à-dire que quand vous allez dans les écoles, dans les BTS, assistante manager, assistante manager, vous n'avez pas d'hommes.
Des formations.
Donc, si je regarde 2019, j'ai dû recevoir sur l'ensemble des CV même pas une dizaine de candidatures d'hommes. Donc, naturellement.
Donc, ce que vous dites, spontanément, ce sont des femmes qui ont.
Spontanément,
et ça, on n'y peut rien. C'est un enjeu. Voilà. Bon. Alors, comment faire évoluer, justement, cette image? Est-ce que vous le souhaitez?
On le souhaite. Alors, c'est une responsabilité partagée.
Oui.
Le manager a sa responsabilité, parce que naturellement, en fonction de ce qu'il va demander à son assistant ou son assistante, l'image va évoluer ou ne va pas évoluer. Et donc, en ça, on est un petit peu dans un virage. C'est-à-dire qu'on a les nouvelles générations de managers qui se comportent différemment, qui sont peut-être plus autonomes avec les outils, etc. On a une responsabilité RH, c'est-à-dire qu'il faut sur des personnes qui en ont les compétences, le potentiel, l'envie, on prenne des paris. Et ça a toujours été la politique de L'Oréal, donc il faut continuer à prendre des paris. Et si vous voulez que ces modèles donnent des idées à d'autres collègues, et puis une responsabilité de la part des assistantes elles-mêmes, et ça c'est un sujet intéressant, c'est de se donner la permission d'eux. Hein, c'est de temps en temps mettre le pied dans la porte et dire peut-être que tu pourrais me donner tel sujet.
Hugo Ponchon, retenez bien son nom, il est le directeur des affaires sociales de L'Oréal, c'est le groupe L'Oréal SA.
L'Oréal SA, c'est 8500 personnes sur les 14 000.
D'accord, c'est déjà pas mal. Vous avez quel âge?
31.
Bravo, félicitations.
Merci.
En tout cas, vous avez des idées très précises, ça fait plaisir. Et j'imagine que vous êtes à la bonne école avec un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Legrand, non? C'est ça?
Absolument.
Le DRH du groupe. Absolument. Et qu'on salue au passage. Alors, vous restez avec nous, mon cher Hugo. Vous savez organiser votre travail, je vous fais confiance, a priori. Mais il y en a qui, malheureusement, quand il faut enchaîner les réunions, quand il faut... on n'a plus le temps, forcément, de traiter les actions sur lesquelles on est engagé, et on ne déconnecte pas. Eh bien... voici un expert, il bosse chez Orange, lui, et il a eu l'idée de dire 5 jours pour mieux organiser son travail et enfin profiter du temps. Voici notre invité, découverte également avec la solution RH, notre invité.
BFM Business, le club média RH, solution RH.
Bonjour mon cher Alexandre Zermati.
Bonjour mon cher Alexandre.
Quel joli prénom.
Magnifique.
Donc déjà, ça doit te permettre de...
il y a une communauté d'esprit entre nous deux déjà. Ça commence très bien.
Prénom grec, bien sûr. Alors, Alexandre Zermati, je suis ravi de vous rencontrer. Vous avez quel âge, vous?
39.
39. Ah, vous êtes
un coup de veille à 5 minutes.
Avec notre
ami. Il est passé au maquillage, pourtant.
Exactement.
Alors, vous, c'est autre chose. Vous êtes cadre chez Orange, c'est ça?
Oui, c'est ça.
On va situer le débat. Oui. Vous êtes préoccupé, vous êtes attentif à tout ce qui touche à l'organisation du travail.
Exactement.
Comment vous est venue l'idée de vous jeter sur ce livre et d'avoir des conseils à donner? Parce qu'on peut dire, il est qui pour nous filer des conseils? Je fais exprès, je suis là pour être provocateur. En tout cas, votre idée, c'est proposer des journées décisives. Voilà, je vous laisse nous expliquer.
Alors ça, c'est simple. En fait, le concept de ce livre, c'est d'être une boîte à outils pour ses lecteurs, une boîte à outils pour les collaborateurs, pour des collaborateurs plus épanouis dans leur travail. Alors qu'est-ce qu'on entend par épanouissement? On entend plein de choses évidemment, et dans le cadre qui me concerne moi, c'est l'idée de que le lecteur devienne un self-manager. Ce qu'on a essayé, tenté de dire tous les deux tout à l'heure. Voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'un self-manager?
Voilà,
c'est ça qui est intéressant. Alors si je vous dis, c'est quelqu'un qui se manage lui-même, vous allez me dire, d'être venu sur ce plateau, mais c'est peut-être pas la chose la plus intéressante à dire à ce moment-là. Donc j'ai essayé de qualifier un peu mieux ce que c'est qu'un self-manager. Un self-manager, c'est quelqu'un qui met, et je bois du petit lait quand j'entends Hugo en face de moi, la notion de sens dans tout ce qu'il fait.
Un self-manager, c'est quelqu'un qui dirige une équipe.
Pas obligatoirement,
non, justement. Pas forcément.
Non, justement. C'est quelqu'un qui dirige une équipe ou pas. Voilà, c'est la notion de self qui renvoie à sa propre personne, évidemment. Donc, c'est pas forcément un manager. Pour continuer sur ce que je disais, donc effectivement, il y a cette notion de sens. Le self-manager, lui, il va mettre du sens derrière ses actions, évidemment. Il va mettre du sens derrière ses missions, derrière ses projets et également derrière sa carrière. Donc, on va retomber dans le livre, dans des outils qui vont permettre de remettre du sens.
Alors, puisque vous parlez des outils, on va être très concret.
Oui.
On va pas tout dévoiler parce qu'il faut acheter ce livre et pour y trouver beaucoup de bonnes réponses.
D'accord.
D'abord, on va dire que le sommaire, c'est 5 chapitres. Le premier, c'est les propositions dans les outils.
Oui.
Vous dites d'abord, je vous conseille, c'est vous qui parlez,
oui,
de clarifier ses projets. Voilà.
Exactement,
le premier.
Donc c'est la notion de sens que j'évoquais à l'instant. Et c'est là
comment
on va
donner du sens à ses actions.
Exactement, et c'est là où je donne des outils très concrets. Typiquement, la raison d'être, on parlait de la loi Pacte tout à l'heure, c'est un outil très concret pour prendre des décisions quotidiennes et je donne des outils pour le faire.
Deuxième chapitre, deuxième grand chapitre, comment configurer son
environnement de travail.
Son environnement de travail. Ça veut dire quoi ?
C'est simple. Pour prendre une bonne habitude,
oui,
ce qu'il faut, c'est déjà que l'environnement vous amène à cette bonne habitude.
Qu'est-ce que vous appelez l'environnement ?
L'environnement. Bah, je vais illustrer
avec un exemple,
avec du professionnel.
Avec un grand discours.
Oui, très simple. Votre boîte mail, par exemple. Sachez que dans votre boîte mail, vous avez des systèmes de tri automatique et personne ne les utilise aujourd'hui, pourtant ils sont très efficients. Et donc cette douleur qui est celle du mail, finalement,
la douleur
on se dit
mail.
On reçoit entre
J'aime
50
bien la
et
100 douleur
mails.
Du mail.
La douleur du mail. On reçoit entre 50 et 100 mails tous les jours. Et peut-être Hugo plus et moi un petit peu plus.
Oh,
aussi,
Hugo, mais... c'est peut-être 10 000.
Oui. Voilà, exactement.
Vu son poste.
En fonction de son. Et ben, finalement, si je passe 3 minutes sur chacun des mails, il se passe quoi ? Ben, moi, je passe 5 heures tous les jours à traiter mes mails.
Je suis d'accord.
Et donc, dans vos outils, vous pouvez déjà paramétrer des choses pour qu'ils travaillent à votre place. Et c'est cette notion d'environnement que j'évoque
D'accord.
dans le deuxième chapitre.
Jour 3, parce que c'est par jour que vous proposez les
Exactement.
Choses. Jour 3, être productif.
Exactement. Donc c'est là où on va tomber sur des notions qui sont très importantes de gestion des priorités. Voilà. Ça, c'est très important.
On va faire réagir dans un instant Hugo. Je suis d'accord.
Un self-manager, c'est quelqu'un qui ne croit pas tous les lièvres. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui va avoir des outils, là aussi, je les donne, notamment la matrice Impact Effort, qui permet de savoir vers quelle priorité aller.
Oui, j'aime bien votre passage quand vous dites comment communiquer avec impact.
Alors ça, c'est drôle. C'est pas
la formule est bonne.
Oui. Alors ça, c'est effectivement, c'est très intéressant. Parce que
c'est à découvrir dans votre livre, on ne va pas tout déflorer. Hein.
Effectivement. Bon. En tout cas, sachez que sur la communication avec impact, j'ai fait intervenir quelqu'un qui s'appelle Stéphane André et qui nous explique comment à l'oral, on peut avoir de l'impact, ce que j'essaie de faire là, en se tenant bien, etc. Enfin, il y a pas mal de conseils qui sont donnés par Stéphane.
Et enfin, je répète, on ne va pas déflorer, vous voyez, ouais. Hugo prend des notes déjà, on ne va pas déflorer tout le détail. Il faut lire votre livre chez Erol. Dernier point, s'organiser, et ça c'est un des points importants, j'ai adoré, déconnecter à la maison. Ça, c'est essentiel.
Oui. Exactement. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé depuis 10 ans dans nos mains ?
Ouais.
Le smartphone, que je ne vais pas sortir parce que je ne l'ai pas pris sur moi. Ce smartphone, aujourd'hui, on y passe plus de 2 heures. Les Américains, ils y passent plus de 3 heures par jour. Et finalement, on y passe du
temps. Ils sont fous, ces Américains.
On y passe, mais nous aussi. Hein. Enfin, je ne veux pas jeter la pierre.
D'ailleurs, si on le perd, le smartphone, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si ça
c'est une
arrivé.
Non, mais on est sur des phénomènes qu'on appelle la nomophobie. Voilà, c'est un nouveau mot.
On n'a plus le numéro de téléphone de notre famille, de nos amis, on n'a plus rien. Quoi.
Exactement, Alexandre.
On est nu.
Exactement. Et donc, l'idée, c'est de donner là aussi des outils très concrets pour passer une heure sur son smartphone tous les jours, être capable de déconnecter. Déconnecter, c'est hyper important.
Oui, c'est pour mieux organiser sa vie de famille.
Exactement.
Et
c'est important pour vous et pour vous également.
C'est ce que vous avez appelé, bien sûr, avoir plus de temps pour soi.
Exactement.
Et comment prendre de nouvelles habitudes. Vous êtes d'accord, en deux mots, j'imagine, Hugo ?
Oui, en fait, le smartphone...
Vous y arrivez, vous aussi ? Vous êtes self-manager ?
Je ne pense pas nécessairement...
Les mails, on recevait combien ?
Points. Non, le smartphone, c'est intéressant. Il faut protéger les collaborateurs sans contraindre. Parce que... On a été tenté, fut un temps, de dire à partir de telle heure, interdiction de... Mais si vous voulez, les nouvelles générations, c'est absolument pas ce qu'elles souhaitent. C'est pouvoir peut-être rentrer plus tôt, se reconnecter, etc. Donc c'est un sujet très intéressant. Et alors j'invite...
Oui, le curseur est à un endroit différent.
Et oui. Et peut-être c'est dans le livre que je n'ai pas encore lu, mais il y a un truc qui est très intéressant. Enlever toutes les notifications.
Voilà.
Exactement. Parce qu'une notif, c'est je tourne ma tête, je lis et je reviens à mon travail, mais en fait le temps de reconcentration, il est énorme.
Boulot.
Bien sûr.
Exactement. Et donc effectivement, ça fait partie des conseils qu'il y a dans le livre, à la fois les notifications sur smartphone, mais aussi sur PC, parce que figurez-vous qu'on reçoit des notifications de mails notamment qui peuvent nous interrompre toutes les 3 minutes environ.
Voilà, donc vous restez avec nous. De toute façon, dans quelques instants, on va passer à la deuxième partie. Je prends du temps, mon cher Alexandre. Joli prénom, pour, je le rappelle. Pour Alexandre Zermati, donc, qui est l'auteur de Self-Manager, 5 jours pour mieux organiser son travail. C'est la petite phrase en dessous qui compte. Hein. Et profiter enfin, enfin de sa vie perso. Vous restez avec nous, on va recevoir nos autres invités dans quelques instants.
BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent. BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bonjour, pour ceux qui nous rejoignent à la radio ou à la télé sur BFM Business, et vous avez bien raison d'être avec nous, on est encore en présent pour une demi-heure pour le club Média RH qui a ouvert grande ses portes. Je vous rappelle que nos invités précédents de la première partie sont encore là, à la fois le célèbre Hugo, c'est pas Victor, c'est Hugo Ponchon. Bonjour Hugo. Bonjour Hugo. Merci pour le week-end d'avoir pris du temps, d'avoir mis la cravate pour venir nous voir. Vous qui êtes directeur des affaires sociales de L'Oréal, pour nous parler des emplois. On rappelle le nombre, 1000 postes à pourvoir en CDI. C'est bien ça, vous pouvez le redire si vous le souhaitez.
Oui, je le redis, oui, mais chaque année.
1000 postes en CDI, sans compter les postes, bien sûr. Les stagiaires, les etc., etc.
Et de tous horizons.
Et de tous horizons. Avec nous également dans cette première partie, l'auteur de ce futur best-seller, Self-Manager, 5 jours pour mieux organiser son travail. Et de nouveaux invités viennent de nous rejoindre. On terminera dans quelques minutes avec le créateur de la start-up qui cartonne et qui recrute, Benoît Liénard. Bonjour Benoît.
Bonjour Alexandre.
Ça va en forme?
Ouais.
Bon. Alors vous êtes le cofondateur de Pledge. Je ne sais pas si on dit Pledge. Pledge. Voilà, Pledge. Pledge, c'est 50% de croissance ces 6 derniers mois. Bravo. 40 clients grand compte, il y a peut-être L'Oréal.
Alors 100.
C'est 100.
C'est 100 clients grand compte, dont Mano Mano, Decathlon, Odalis et lastminute.com.
Bravo. Et peut-être bientôt L'Oréal. Je ne voudrais pas jouer J'espère. Les emprometteurs, mais... Vous restez avec nous, en tout cas, nos deux invités précédents, puisque vous allez retrouver dans quelques minutes Benoît Liénard, qui dispose de 4 postes à pouvoir dans sa start-up. Et puis, notre expert, notre conseil, que nous appelons parfois et souvent même, Philippe Morette. Bonjour Philippe.
Bonjour Alexandre.
Alors Philippe, vous êtes un point de repère pour nous. Vous êtes directeur de People First. Vous êtes un expert dans tout ce qui touche au management, au RH. Et vous allez nous parler de ces tendances. Vous nous appelez en disant, il y a un truc intéressant. Allez, on y va. Et je suis d'accord. Des tendances nouvelles, c'est comment se retrouve-t-on aujourd'hui dans certaines réunions avec à la fois des hommes, des femmes en CDI, justement, des freelances, des stagiaires, des directeurs de management. En fait, toute une population différente qui se retrouve autour d'un même sujet. Ça, c'est nouveau et c'est une tendance anglo-saxonne. On va aller dans le détail. Vous nous dites que ça se développe. Voilà, c'est parti. On va d'ailleurs recommencer avec vous. Philippe Morette.
BFM Business, le club Média RH. Décryptage RH.
On décrypte, mon cher Philippe. Alors, racontez-nous, c'est quelque chose qui est... Vous n'êtes pas le seul à observer, vous êtes le seul à l'avoir noté et à nous dire, il y a un sujet intéressant autour de ça, c'est une tendance assez lourde, c'est ça? Et ça, c'est votre expérience de DRH. On peut le rappeler,
oui.
C'est en cela que vous avez vous-même que vous avez votre crédibilité, vous avez été DRH d'une grande boîte, enfin peu importe.
Red, ISS...
Voilà, de plusieurs sociétés. Service. Et vous êtes aujourd'hui, vous avez créé votre propre entreprise de conseil dans ce domaine, et c'est l'organisation du travail en entreprise qui est en train de changer. On en a parlé avec nos amis déjà.
On en a parlé sous l'angle du...
On en parle souvent dans cette émission.
Avec Hugo, ouais. Les observations que je suis là plus pour partager observations et expériences, mais on voit bien qu'aujourd'hui la relation entre l'employeur et le salarié se complexifie. D'autres acteurs interviennent et je dis souvent nombre de projets aujourd'hui qui... de transformation conduite dans les entreprises, mobilise pas mal d'acteurs, oui. Des acteurs de toutes sortes, des salariés, des consultants, des managers de transition. Et tout ça change, de mon point de vue, pas mal la relation, le fonctionnement, avec des bonnes choses, mais aussi peut-être parfois quelques
Alors, risques. Alors, Philippe, est-ce que c'est une vague de fond ou est-ce que c'est une évolution lente qui mettra du temps à s'installer dans les entreprises?
Alors, je pense que c'est une évolution, en tout cas, vers beaucoup plus de flexibilité.
Ouais, d'agilité, comme on dit aujourd'hui.
De flexibilité, on apprécie, on n'apprécie pas, mais il y a un vrai besoin aujourd'hui, côté employeur, parfois de recherche d'expertise. Mmh. On peut les avoir en interne, un groupe comme L'Oréal, bien évidemment, les a très certainement en interne, mais aussi des ETI, des PME ou des entreprises un peu plus grandes. On a nécessité d'aller regarder à l'extérieur.
Alors, sur le plan de l'emploi, vous dites que cela se traduit par une plus grande variété des modes de collaboration dans une même entreprise. Donc ça veut dire aussi au niveau du recrutement. Il y a le recrutement classique, on peut dire ça. Et aujourd'hui, beaucoup de patrons vont chercher, comme vous le disiez très justement, des talents, des compétences. Parce que, mais ça peut être sur des projets ponctuels, en
projets
général
ponctuels ou transformation. Mais j'ai envie de dire, j'ai mis le mot recrutement parce qu'au fond...
C'est du recrutement aussi.
Je suis passé par là, à la fois de côté de la barrière et aujourd'hui
en tant que DRH,
animateur d'un petit cabinet de conseil. Au fond, c'est un peu la même démarche. C'est à la fois une démarche de recrutement, d'attirer les talents, de les fidéliser, de partager aussi une culture, des modes de fonctionnement et de ne pas plaquer des ressources à un moment donné au risque de gêner les équipes internes. J'ai pu observer que dans certains cas, dans certaines situations, on a oublié cet aspect-là et que ça peut créer des déséquilibres en interne. Donc sur le plan social en particulier, sur le plan fédération des énergies, c'est important aussi de travailler ces points-là.
Mais ça veut dire que la gestion des relations sociales est différente. Elle va évoluer. Elle évolue ou pas?
En tout cas, j'ai pas été confronté à des situations où les acteurs, les représentants du personnel, si on parle d'eux, s'étonnaient de ça. Il faut faire attention. Je pense que ça fait partie aussi des nouvelles formes de collaboration. Il faut veiller sur un plan statutaire, mode de fonctionnement et l'équité aussi entre des partenaires externes et des collaborateurs.
Oui, je crois que vous voulez réagir, mon cher Hugo.
C'est comme toute nouvelle tendance. Le cadre légal n'est pas encore complètement adapté. Et c'est vrai qu'entre être manager d'un statutaire et être donneur d'ordre d'un collaborateur d'une entreprise extérieure, c'est très différent.
C'est un partenaire, en quelque sorte.
Donc, on a des managers qui aimeraient bien manager un ensemble cohérent, sans se demander si telle personne est sous tel contrat. Et donc ça, c'est l'évolution du cadre légal qu'il faut engager, évidemment.
Ouais. Pourquoi dites-vous que c'est une tendance anglo-saxonne? C'est parti. Et pourquoi c'est parti du pays? C'est quoi, l'Angleterre, les États-Unis?
Les États-Unis, la flexibilité, l'éloignement géographique, la culture très plutôt individuelle, l'absence de relations collectives telles qu'elles sont organisées en France, ont milité dans ces pays plutôt pour une relation individuelle entre le salarié et l'entreprise. On le voit sur plein de domaines, sur les bénéfices, etc. Donc c'est une tendance aussi parce que l'agilité, la réactivité, la complexité des projets induit de la compétence. Et puis aussi, au risque d'être politiquement pas très correct, c'est de plus en plus, je crois, une aspiration d'un certain nombre de managers, de salariés qui quittent l'entreprise, de se lancer dans autre chose et en même temps d'exister différemment. Partons aussi du constat que parfois c'est difficile d'être autonome, d'avoir de la liberté en interne, on la trouve plus à l'extérieur.
Il y a une dizaine d'années, ce n'était pas une réalité, c'était un frémissement. Aujourd'hui, c'en est une.
Alors, c'est absolument, il y a une dizaine d'années, j'ai envie de dire, le manager de transition dont on parle souvent et auquel tous, dans des fonctions différentes, on a eu recours, était plus quelque chose de négatif dans la perception, synonyme d'urgence, parfois de restructuration, de mode pompier. Aujourd'hui, ça devient, entre autres, dans ce domaine-là, une vraie ressource.
Est-ce que les avancées technologiques ne sont pas un plus, enfin, cette accélération de l'utilisation des outils technologiques? Je parle bien sûr d'Internet, des SMS, de tous les outils de communication qu'on utilise tous aujourd'hui, n'ont pas favorisé tout cela pour de nouvelles aspirations, remplir de nouvelles, venir en aide, appuyer ces aspirations.
Toutes ces évolutions à la fois liées au home office, liées à plus de flexibilité, à de l'agilité dans le temps de travail, etc., participent et ont prennent leur origine dans des aspects bien sûr de technologie. Et puis aussi, je crois que c'est une aspiration des salariés. J'ai fait le constat moi-même, très modestement.
Ah oui, bien sûr. Vous êtes passé du statut de salarié à une entrepreneur.
Absolument. Parfois, on a le sentiment d'être pas assez écouté en interne, dans certains univers, pas partout, et que changer de posture, c'est aussi un souhait d'un certain nombre de salariés, mais aussi de travailler dans un cadre organisé.
Alors Philippe Morette, à voir, je reprends votre formule de départ, dans une même réunion, des salariés en CDI, des freelances, des managers de transition, des stagiaires, tout cela mélangé. Et vous dites, dans leur état d'esprit, porter le même maillot, comme on dit dans le football. Ça, c'est nouveau, ça commence à fonctionner, mais pour autant, il doit rester, j'imagine, des difficultés d'ordre, non pas managérial, mais d'ordre pratique. Par exemple, les statuts sociaux sont différents.
Alors, il y a à la fois l'aspect culturel, j'ai envie de dire, il ne faut pas oublier qu'un intervenant externe, quel qu'il soit, quel que soit son statut, il est là pour faire progresser l'interne, et pas le contraire. Et s'il s'exprime, il ne faut pas oublier cette posture de base. Et puis deuxième point, en effet, sur le plan du temps de travail, par exemple, de l'investissement, de l'engagement, du respect du mode de fonctionnement et des pratiques internes, c'est aussi important d'y veiller. Et donc là, il y a quelques risques parfois de décalage.
Je voudrais donner ces chiffres que vous nous avez transmis, je les trouve étonnants, puis ça fera intéressant de faire réagir nos autres invités. Le nombre de freelance ou de travailleurs indépendants exerçant en France a triplé, vous avez bien entendu, triplé en seulement 10 ans. Le travail indépendant, c'est ça, hein, représente aujourd'hui 11,5% de l'emploi, et il y a une petite sonnette, un petit repère, puisque les États-Unis sont souvent des moyens d'avoir des repères. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des freelances. Aux États-Unis, au CAC 40, j'imagine que c'est votre cas, vous allez nous le dire, Hugo, mais aux États-Unis, ce sont près de 40% des travailleurs qui sont indépendants. Alors, les marchés ne sont pas comparables, mais c'est énorme, 40% aujourd'hui.
C'est énorme, alors. Moi, je suis assez attaché à un cadre collectif aussi de fonctionnement.
Parce que comment faire fonctionner le collectif, en plus, notre question. Voilà.
Vous parliez du maillot, le même maillot. Les valeurs, l'esprit, le mindset. Je suis très réticent, en tout cas, voilà, un peu arrogant de l'afficher de cette manière, mais je suis assez réticent au recours systématique excessif à une multitude d'intervenants qui ne partageraient pas les mêmes valeurs, le même sens, et surtout qui ne serait pas dans cette logique.
Mais il y a quand même des perspectives qui sont claires, 40% aux États-Unis, ça va arriver, ça se multiplie, donc on peut penser que...
Tout l'enjeu, c'est de fidéliser, de travailler dans des communautés, de fidéliser un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de mes clients sont dans cette logique-là, de fidéliser des bons amis, des relais, experts, qui interviennent et qui sont en capacité de se mobiliser sur un projet.
Hugo, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes directeur des affaires sociales de L'Oréal SA, c'est-à-dire le groupe L'Oréal. Un sujet qui vous interpelle, vous entendez, vous avez envie de réagir là-dessus.
Oui, ça pose question. Quand on donne la même mission à un collaborateur en interne et à un collaborateur indépendant.
Bien sûr.
C'est-à-dire que si c'est une expertise précise, dans le cadre d'un projet précis et dans un temps limité, etc., ça peut tout à fait s'entendre. Quand on commence à entremêler des postes qui sont parfois statutaires, ça pose question. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi ces personnes-là cherchent à avoir ce type de contrat. Ça fait le lien avec le livre d'Alexandre. Peut-être parce que l'entreprise, dans son organisation traditionnelle, n'a pas permis d'organiser leur vie personnelle comme il le souhaite.
Voilà. Si on parle autant de profiter enfin de sa vie personnelle, comme le dit Alexandre, c'est parce que malheureusement les entreprises ont pris beaucoup de retard à un moment donné et que la marmite bouillait, le couvercle a explosé. Vous êtes d'accord aussi là-dessus? J'imagine. Et Philippe aussi.
Le monde du travail a évolué en 10 ans drastiquement.
Et Alexandre Zermati.
Le temps que tout le monde intègre ces évolutions, on parlait du télétravail. L'agilité, c'est quand même un gros sujet aujourd'hui dans les grosses entreprises. Ça va à la fois dans le sens du collectif, mais aussi ça pose des questions sur les postures de chacun. Donc ça fait beaucoup de choses à intégrer. Mmh. Et à la fin des fins, effectivement, il est important que tout ça ait un impact. Un bon impact sur la vie perso aussi. Quoi.
Philippe Morette.
Alors, ce qui est dit par Alexandre et Hugo, je crois, est très vrai. Ça rejoint aussi parfois le déclencheur et souvent un moment, une difficulté, une envie de découvrir autre chose. Voilà, ça c'est pour le changement de statut. Et puis après, il y a le choix de l'entreprise que de privilégier un certain nombre d'acteurs, de les intégrer. Et là-dessus, avec beaucoup d'humilité et de modestie, je pense qu'il faut veiller à ce que ça se passe collectivement, correctement.
Alors on voit dans l'actualité RH, que nous suivons de près bien sûr, beaucoup d'exemples, de plus en plus d'exemples de jeunes, enfin pas de jeunes, je veux dire, qui ont entre 30 et 40 ans.
Attention ce que vous dites.
Attention, on met le curseur. Bon, suis-je encore jeune? Des cadras, disons, qui arrivaient, et ça c'est récent, c'est il y a 4-5 ans, qui ont un véritable... alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, on n'est pas là pour juger, mais qui décident de, entre guillemets, tout plaquer la ville, je prends cet exemple-là, pour aller vivre à la campagne, s'installer à la campagne, alors exercer un nouveau métier ou pas, ou continuer à exercer comme freelance ou comme indépendant dans l'entreprise qui les employait. Vous l'avez vécu, vous avez des collaborateurs qui vous disent je veux vivre d'une autre manière.
Oui, bien sûr. Alors, il y a plusieurs...
Comment vous faites d'ailleurs dans ces cas-là?
En fait, si vous voulez, c'est intéressant de regarder les raisons exactes qui motivent les départs.
Oui.
Et il se trouve, dans le cadre des démissions, pendant un temps, c'était souvent je suis mon conjoint et non pas ma conjointe. Il se trouve que de plus en plus, on a des collaborateurs hommes qui nous disent je suis ma conjointe, parce que c'est très positif.
Ça, c'est nouveau.
D'accord. Ça, c'est bien, c'est-à-dire que la société évolue. Et au rayon des nouveautés, il y a effectivement, je ne peux plus, j'en ai marre de la vie parisienne.
Je veux travailler. Si on prend l'exemple de Paris, mais ça peut être des grandes villes aussi.
Oui, alors bon, on
cite Paris,
ça nous arrive, souvent, pour ce qui nous concerne, plutôt pour l'Île-de-France.
Oui, oui.
Je veux avoir un cadre qui corresponde mieux à l'environnement dans lequel
on grandir mes enfants. Le roll-ball d'une vie.
Et ça, c'est assez nouveau, ça s'est accéléré ces dernières années.
Je trouve, oui.
Ouais, en complément, j'ai des exemples en tête de collaborateurs qui viennent vous voir et qui vous disent « Je veux m'installer à Nantes ou à Bordeaux, aidez-moi ». trois petits points. Parfois, il y a une petite pression qui est mise sur l'employeur. Mais au fond, il y a un intérêt commun que d'aider ce collaborateur ou cette collaboratrice à s'installer, à faire du home office, à travailler, à
dans tout un statut restant, différemment. Tout en restant sous la même bannière, vous parliez du même maillot.
Sous la même bannière, mais avec peut-être un contrat, une nature de relation contractuelle différente. Mais voilà, ça aussi, il faut beaucoup de souplesse et d'ouverture. Je pense que là aussi, il y a une vraie tendance dans cette direction.
C'est une vraie un vrai choix de politique sociale. Hein, oui, est-ce qu'on autorise la personne à être 5 jours sur 5 en télétravail dans une autre ville? Est-ce que, finalement, en termes de lien social dans l'entreprise, de cohésion d'équipe, c'est positif ou non? À quel endroit on met les limites, voyez?
Oui, mais ça, c'est nouveau et c'est une réalité.
C'est nouveau. Alors, il y a des événements qui l'accentuent avec plus ou moins de bonheur. Les événements du mois de décembre, la situation actuelle de crise sanitaire, etc., encourage le télétravail, donc va accentuer un certain nombre de...
Il va se passer des choses avec l'issue du coronavirus sur le télétravail. À chaque fois, on se dit encore un événement qui fait que les grèves, déjà, le télétravail s'est mis en place d'une manière plus présente. Maintenant, le coronavirus, etc., etc.
Donc, c'est intéressant parce que
l'environnement pousse à prendre des dispositions différentes.
Voilà, des managers qui pouvaient être réticents parce que ça faisait pas partie de leurs habitudes historiques, quand ils sont confrontés et contraints par ces événements de grève, d'épidémie, etc. Finalement, on tire les leçons et se disent ça s'est bien passé. Telle personne était plus concentrée, a été plus productive, que sais-je. Donc c'est intéressant.
Ouais, et à l'image du droit à la déconnexion, qui est par définition aujourd'hui un droit, je ne serais pas surpris que dans 2-3 ans, on parle du droit à travailler à la maison.
Bien sûr.
Ouais, c'est en train, on y va.
On y va.
On sent qu'on y va et qu'il va falloir prendre des dispositions, en tout cas aider les entreprises, je parle de l'État, à prendre des dispositions légales pour permettre que tout cela se fasse en harmonie. Vous restez avec nous, vous avez des modes de paiement différents, vous, Hugo?
À titre personnel?
Oui.
Assez peu.
Vous savez ce que c'est qu'une solution omnicanale?
On en a parlé avant l'émission, je triche.
Ah ben c'est bien, vous trichez. Bon, je vous propose de découvrir la start-up qui cartonne et qui recrute. Il s'agit de Pledge. C'est dans un instant, vous savez qu'à chaque fois, chaque semaine, on donne un coup de pouce à une jeune pousse, elle est jolie la formule, coup de pouce à une jeune pousse qui a besoin d'un coup de main. Et cette entreprise, à chaque fois, c'est une entreprise qui cartonne et qui recrute. On est là pour ça. Voici Pledge, c'est tout de suite.
BFM Business, le club Média RH, la start-up qui recrute.
Bonjour Monsieur Pledge.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Bruno Liénard. Vous êtes le cofondateur de Pledge. On rappelle ce que c'est Pledge.
Exactement. Alors Pledge, c'est une solution qui permet de payer en ligne, en plusieurs fois, pour les professionnels et les particuliers. Donc concrètement, je suis
prenons un exemple concret.
Voilà. Donc je suis
vous dites multicanal. Pardon de vous couper, après je ne vous coupe plus. Mais vous dites que c'est un mode de solution omnicanal de facilité de paiement. Expliquez-moi parce que j'ai pas tout compris.
Alors omnicanal, c'est très simple, ça veut dire que ça marche à la fois en magasin et en ligne. Donc pour prendre un exemple, en magasin, je veux acheter.
Non, mais en magasin en ligne, ça veut dire c'est multicanaux alors.
Exactement, voilà.
Mais pourquoi omnicanal?
Omnicanal, c'est parce que c'est voilà.
On l'appelle
déjà
comme ça.
C'est de là, très bien, voilà.
Bon, pardon pour la sémantique, mais moi je l'aurais appelé multicanal. Mais allez-y.
Et donc, typiquement, en magasin, je veux acheter un téléphone portable chez The Case, mais on propose un moyen de paiement qui permet d'étaler ces paiements en plusieurs fois.
D'accord.
Et en ligne, on permet à des petits entrepreneurs sur ManoMano qui veulent faire leurs courses pour un chantier d'acheter en payant tout de suite et en nous remboursant en 30 jours. Sous 30 jours.
Alors, vous avez créé cette start-up, c'est en 2016, c'est bien
exactement.
Ça. Et mine de rien, je vous demande, regardez bien notre ami Benoît Aliénard, on dit de Pledge que c'est la future licorne française des solutions de paiement. Dites-moi, ça doit être lourd à porter, ça. Pourquoi est-ce qu'on dit ça de vous? Création, vous êtes 10 collaborateurs, et vente, vente chez les marchands, plus 20%. Ça, c'est votre progression. Allez-y.
Voilà, donc effectivement, nous, on a un impact sur le chiffre d'affaires des marchands,
oui.
Puisqu'on permet d'augmenter en moyenne de 20% la taille du panier moyen. C'est effectivement énorme et on se positionne par rapport à... Pourquoi future licorne du secteur des paiements? Parce qu'on se positionne sur un secteur qui est plein d'opportunités aujourd'hui. et qui jusqu'à maintenant était occupé par des acteurs traditionnels du crédit à la consommation. Et nous, on vient disrupter ces acteurs en proposant des solutions de paiement qui sont beaucoup plus fluides à utiliser par les utilisateurs finaux. Donc c'est beaucoup plus simple d'utiliser Pledge pour payer en plusieurs fois sur Mano Mano qu'une solution de paiement en plusieurs fois traditionnelle. Et c'est un secteur qui est en plus extrêmement porteur puisque très héroïste pour les e-commerçants.
Fin 2016, création de l'entreprise en Bretagne. Vous êtes breton, c'est ça ? Vous êtes
installé où ? Le siège est en Bretagne.
À quel endroit ?
Aujourd'hui, à Saint-Pabu, dans le Finistère.
Saint-Pabu ?
Voilà. Donc le siège est là-bas et toute l'équipe est à Paris maintenant.
Saint-Pabu.
C'est très joli.
D'accord.
C'est un très bel endroit.
Pabu, à Pabu, hein. Saint-Pabu, d'accord. Et aujourd'hui, l'entreprise, donc ça c'est la création. Fin 2017, commercialisation de votre solution de paiement. Je parle des étapes. Levée de fonds en 2017. Plus d'un million d'euros. Et 2019, mai 2019, lancement du paiement en 3 ou 4 fois et du paiement différé sur le web et en magasin avec déjà 20% des ventes. Alors tout à l'heure, j'ai cité un chiffre qui est de ma part complètement erroné. J'ai dit 50% de croissance, je me suis trompé. C'est 500%, plus de 500% de croissance. Pardon, plus de 500% de croissance en 6 mois. Ça fait rêver. Je vois Philippe Morette qui dit chapeau, chapeau bas. Hein, chacun en dit chapeau bas.
Exactement, parce que c'est, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur qu'on vient vraiment disrupter dans la mesure où il y a aujourd'hui très peu de solutions à destination des professionnels qui permettent de faire du paiement différé en ligne. Donc ça, on est aujourd'hui vraiment les seuls à proposer ces solutions-là dans un fonctionnement aussi bien en ligne qu'en magasin.
Leader français du paiement partagé avec la signature de grandes marques du voyage.
Exactement.
Du retail, vous les avez cités, on ne va pas le refaire. Des loisirs et de la billetterie. Et aujourd'hui, votre objectif, votre ambition, vous le voyez arriver ou pas dans l'année qui vient? Vous dites quoi? On sera à peu près à...
L'objectif, c'est de très bien installer notre solution à destination des sites B2B et B2C en France.
Oui.
Et ensuite, de viser l'Europe.
Mais là, il faudra des moyens financiers.
Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a refait une levée de fonds en fin d'année dernière.
Oui.
Une levée de fonds qui nous permet à la fois de développer nos solutions et aussi d'apporter du financement, puisque comme on avance de l'argent, on a besoin de cash à avancer. Et effectivement, l'étape européenne, ça sera une nouvelle étape à franchir.
Alors, mon cher Benoît, je répète, on est là pour essayer de vous aider à recruter. Vous nous avez écrit en nous disant, voilà, on a 4 postes à pourvoir immédiatement, c'est ça ?
Alors, c'est 5 postes.
5 postes ?
Alors, c'est, voilà, exactement.
Mais à pourvoir maintenant ?
C'est right à pourvoir maintenant, exactement. Donc, c'est des postes qui sont avant tout techniques.
Oui.
Donc, on les voit ici, c'est des développeurs. On a énormément
de... Un développeur, back and Python.
Voilà. Alexandre. Donc, oui. Python. Python, c'est le...
C'est quoi Python ? C'est un serpent ?
Pas du tout. C'est un langage de développement informatique.
Je connais pas.
Il a envie d'aller en Bretagne.
Ils vont se reconnaître, vous êtes d'accord. Hein. Ils vont se reconnaître, là. Un développeur, back and Python. Bon.
Voilà, des développeurs et on recrute également un profil commercial.
D'accord. Un product owner, c'est quoi ça ?
C'est un chef de produit.
Voilà, en français, un chef de produit. Et un business developer ?
Un commercial.
Un commercial, voilà. Pardon, hein, mais à chaque fois, je me fais taper sur les doigts parce que je veux à tout prix défendre la langue française et reprendre les mots en français.
Vous avez bien raison, Alexandre.
Mais on a tendance à utiliser beaucoup le langage anglo-saxon, alors que là, on a compris un commercial, un développeur, etc., etc. Mais le Python, je l'ai noté, c'est la première fois que j'entends parler d'un back-end Python.
Ça, c'est la même chose en français et en anglais. Donc...
Là, on ne peut pas vous en vouloir. Bon, c'est la seule définition. Alors, la question qu'on se pose, bien sûr, et que tout le monde se pose, et que l'on pose dans cette émission, à cette étape de votre découverte, c'est premièrement, quelles qualités vous attendez chez les candidats ?
Alors, on veut des candidats qui soient ambitieux, parce qu'on veut disrupter des acteurs qui sont extrêmement puissants et bien financés et établis. On veut des gens qui soient extrêmement rigoureux, parce qu'on fait du paiement. Et on veut des gens qui soient sympas.
Et des hommes et des femmes expérimentés de préférence ?
Voilà,
pour
exactement.
Pas perdre de temps, il faut qu'ils aient la compétence, quoi.
Voilà,
parce qu'il y a du boulot sur l'établi.
Effectivement, on a besoin d'aller assez vite, donc on cherche d'abord des gens expérimentés.
Alors justement, et c'est la dernière question, c'est la question qui tue, avez-vous les moyens de vos ambitions ? J'ai compris que oui, puisque vous avez levé à nouveau des fonds.
Absolument.
Avez-vous les moyens pour les rassurer, ceux qui nous écoutent, qui vont vous rejoindre ? Vous savez que, je le dis au passage, on est assez fiers parce que, pardon, je fais juste une petite parenthèse, on est assez fiers dans cette émission parce que à plusieurs reprises, on nous remercie d'avoir aidé à trouver des nouveaux collaborateurs. Oui, le mot-clé pour les faire venir chez vous, c'est quoi ?
C'est que effectivement, on est extrêmement solide puisqu'on a levé des fonds avec un acteur du monde bancaire qui nous apporte du financement.
Vous leur dites venez chez nous, il y a du.
Venez chez nous, il y a énormément de choses à faire dans ce secteur des paiements.
Il y a de la progression de carrière, etc., etc.
Oui, tout à fait, puisqu'on est dans un contexte où on a vraiment une activité qui explose. Donc c'est un moment passionnant pour venir rejoindre Pledge.
Voilà, bonne chance. En tout cas, on est ravis de vous avoir donné un coup de projecteur. Et vous nous tiendrez au courant. J'espère que ça a marché. Merci à vous quatre. Je rappelle le livre Self-Manager, 5 jours pour mieux organiser son travail et profiter enfin de sa vie perso. Encore, il faut que sa vie perso soit intéressante. Pardon, je vous...
tome 2.
J'avais envie de le sortir. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Merci Hugo, merci Philippe. Et bonne chance à vous. Voilà. Merci. Je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve le week-end prochain avec d'autres offres d'emploi, d'autres sujets RH, bien sûr, décryptage et start-up. Salut, bon week-end.
BFM Business, le club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.